Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ce matin, comme vous le voyez, nous ne sommes pas nombreux, mais j'espère que nous sommes nombreux à regarder, mais aussi à participer ce dimanche matin, ce culte, pour louer notre Seigneur, pour l'adorer, pour lui dire merci, mais aussi savoir ce qu'il veut pour nous ce matin. Je ne vais pas chanter avec Anthony, sinon ça va faire une catastrophe. Je voudrais bien, mais on va laisser les choses comme ça, c'est mieux. Nous avons entendu ce chant qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dimanche dernier, c'était le week-end de Pâques où on se rappelle que Jésus a été sur la croix pour chacun de nous. Et qu'il est ressuscité, et il est vraiment ressuscité. Et nous voyons que je voudrais retourner quelques paroles en arrière, juste quelques heures avant que Jésus soit condamné et mis à mort. Il est avec ses disciples pour les encourager, bien sûr, de ce qui va se passer. Et Jésus dit dans Jean, au chapitre 14, nous lirons que ces deux versets ce matin, 4 à 6. Il est dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Jésus, durant toute sa période sur terre, il les a enseignés et encouragés qu'il allait partir. Il n'allait pas rester avec eux. Il doit partir. Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Thomas est honnête. « Je ne comprends pas trop, Seigneur. Où tu vas ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà pour ce matin. Jésus en train de dire, je suis le chemin qui mène au Père. Il y a seulement un seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, Jésus est déjà auprès du Père. Et tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, nous sommes sur le chemin qui va vers le Père. Je dirais même plus, la Bible nous enseigne que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. C'est un mystère. Et ce n'est pas par nos œuvres, comme on le sait, ni par nos efforts, notre gentillesse, mais tout cela grâce à Jésus, qui a été sur ce chemin de la croix pour mourir pour chacun de nous. Et il est ressuscité le troisième jour. Il dira à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quiconque vit ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Est-ce qu'on le croit aujourd'hui, cela? Jésus a été sur ce chemin pour chacun de nous. Et nous sommes sur ce chemin qui mène vers le Père. Et ce matin, nous voilà devant le Père. Qu'est-ce qu'on va dire ce matin? Mais tout simplement, on va lui dire « Merci, Père, que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, qu'il a été sur ce chemin de la croix pour chacun de nous. » Il est le chemin, mais également la vérité. Il dit cela à ses disciples, « Je suis la vérité. » Qui veut dire que Jésus est bien Dieu. Ou sinon, il n'y avait pas de résurrection et il ne serait pas la vérité. La vérité s'est faite homme, Jésus-Christ. Et nous voyons dans le monde entier combien de religions il y a. Mais il y a une seule et une seule vérité, c'est Jésus. Et cette vérité nous dit qu'il est parti auprès du Père pour nous préparer une place pour vous et pour moi. Une place pour chacun de nous. Et il nous promet cette vérité qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Cette vérité nous dit qu'il revient nous chercher. Il est la vérité. Crois-tu cela? Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons cru et nous voulons encore l'adorer et le louer. Voilà que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et il termine, je suis la vie. En quelque sorte, c'est une signature, je suis la vie éternelle. Il est Dieu, et il est le seul qui donne la vie éternelle. Je l'ai dit tout à l'heure, toutes les religions peuvent donner un espoir. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais Jésus, lui, donne la vie éternelle. Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Tu ne mourras pas. Bien sûr, on doit passer par cette mort. Mais Jésus a traversé cette croix pour chacun de nous, pour recevoir cette vie éternelle, plus de mort, plus de péché. Et nous serons pour l'éternité avec le Père. Jésus nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance. En lui, en Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. Nous allons maintenant passer au message. Mais juste avant, vendredi, au travail, je passais là dans un corridor et il y avait un collègue qui m'accroche et me dit, Gino, c'est pas une vie, hein, ça. On peut plus s'embrasser, on peut plus se toucher, on peut plus se serrer. Ça devient long, il me dit, et même très long. On en a marre. Pourtant, je suis une personne qui respecte les barrières, tout. Je fais tout à attention. Mais ça devient très, très long. Et je lui ai dit, tu as raison, ça devient long. Ce matin, je voudrais tellement que nous soyons ensemble dans cette salle, les uns avec les autres, en train de se serrer, s'encourager, entendre les autres voix. Combien ça nous manque. Et je sais que le Seigneur est celui qui sait toutes choses. Si on doit encore passer ce temps, un temps difficile, on n'est pas né pour être comme ça. Que vraiment le Seigneur puisse nous aider, aider aussi le monde entier dans cette souffrance et dans ces morts jour après jour. Que le Seigneur intervienne, qu'il ait pitié de chacun de nous. Voilà, maintenant on va passer au message. On va passer un petit moment ensemble dans la parole de Dieu. Et on va lire ensemble dans Colossiens, au chapitre 4, et nous lirons les versets 2 à 6. Colossiens au chapitre 4, versets 2 à 6. L'apôtre Paul nous dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le Seigneur bénisse sa parole On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin nous arrêter dans ces quelques versets que nous avons lus. Seigneur, aide ton serviteur de parler non de moi, mais de toute ta parole. Retire tout ce qui va venir de moi, Seigneur, mais ce matin, ce que tu veux que mon frère et ma sœur entendent pour son cœur. Seigneur, dirige tout dans le nom de Jésus. Amen. Voilà que Paul termine sa lettre. Et il veut que ses frères et ses sœurs de Colosse puissent avoir une vie de prière. Dans les versets 2 à 4, Paul encourage ses frères et sœurs à prier. Et ce matin, je ne veux pas m'arrêter sur ces versets parce que nous avons eu, il n'y a pas si longtemps, un beau message de notre frère Benoît sur la prière. Alors, je ne vais pas m'attarder ce matin sur ces quelques versets. On peut l'écouter dans le site APEB, le message de Benoît. Mais juste une parole ici. Paul dit à ses frères et sœurs de prier pour lui, pour son équipe, bien sûr, pour avoir une occasion, une porte. Une occasion pour annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Le mystère de Christ, c'est quoi ? Qui veut dire le contenu de l'Évangile, annoncer la vérité de l'Évangile. Dire que Jésus est le seul chemin, que Jésus est la vérité et la vie. L'apôtre Paul, ça lui a coûté les chaînes. Mais c'est pour l'amour de l'Évangile qu'il annonce la vérité. Paul est dans les chaînes, mais pas encore. Son ministère n'est pas encore fini. C'est pourquoi il dit qu'une porte, une occasion pour lui d'annoncer le mystère de Christ. Alors, ce matin, mes frères et mes sœurs, quelle leçon pour nous ? Est-ce que ça m'arrive de dire à mon frère, à ma sœur, « Prie pour moi, afin que j'aie une occasion d'annoncer le mystère de l'Évangile. » Est-ce que ça m'arrive de demander de prier pour moi ? Comment annoncer le mystère de l'Évangile ? L'apôtre Paul donne la réponse. Priez pour nous. Priez pour nous. Il faut prier pour que Dieu nous donne cette occasion. Une vie de prière, bien sûr, c'est une vie où tout le monde te voit. Pas qu'il te voit en train de prier, mais il te voit dans tous les sens, quand tu agis, quand tu parles, il te voit. Voilà maintenant qu'on arrive dans le centre du message de Paul. Paul dit, conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. C'est qui ces personnes du dehors ? Mais c'est tous ceux qui ne connaissent pas le mystère de l'Évangile, tous ceux qui ne sont pas croyants. Et ces non-croyants s'intéressent plus à nos paroles que s'intéressent plus à nos actes que nos paroles. C'est pourquoi Paul dit, conduisez-vous avec eux avec sagesse. Quelle sagesse ! Ben, c'est une vie du vrai croyant. À l'époque de l'apôtre Paul et des apôtres, il n'y avait pas moyen de donner un évangile à quelqu'un. Il n'y avait pas moyen de donner un traité à quelqu'un. Ils n'avaient pas encore leur t-shirt en disant « Jésus t'aime ». Ils vivaient la vérité de l'Évangile dans leur vie personnelle. Ces croyants ont bouleversé tout le monde. Est-ce que moi, je vis la vérité de l'Évangile? Cette sagesse que Dieu me demande, une vie de vérité. Que Dieu nous aide pour vivre cette sagesse. Et il est bon de donner un évangile, même très bon. Et il est bon de donner un traité. Il est bon d'avoir ses t-shirts. Mais il faut également que nos vies transpirent cette vérité de l'évangile, ce mystère de l'évangile. Parce qu'ils vont te regarder quand tu vas donner ce traité, quand tu vas donner cet évangile. Ils vont t'examiner de la tête aux pieds. On le voit jour après jour. Et Paul dit, rachetez le temps. Cette sagesse nous rappelle de racheter le temps. Et comment acheter, racheter le temps? Mais ici, le temps, c'est pas l'heure, ni la minute, ni la seconde. Le temps ici, c'est plutôt un temps qui est fixé pour toi et pour moi. Et puis, c'est la mort. C'est pas bon d'entendre ça le dimanche matin. Mais c'est un temps qui est fixé pour toi et pour moi. Et après, c'est la mort. Il arrive souvent qu'on entreprend quelque chose et on ne termine pas parce qu'il y a la mort. On voit beaucoup d'artistes n'ont pas fini leur travail parce qu'ils sont morts. Et la sagesse nous rappelle de racheter le temps. Et Moïse dit cette belle prière, « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Comptez nos jours avec sagesse. Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec Mehdi et Jacqueline et Patrick. Et Jacqueline a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché dans mon cœur. Elle a rappelé une vérité. Elle a dit que Dieu a donné une durée de vie sur la terre. C'est lui qui a fixé cette durée. Combien ça m'a touché. Aujourd'hui, avec cette épidémie, les hommes et les femmes ont remarqué qu'on doit mourir. On avait oublié cela, qu'on doit mourir. La science fait tous ses efforts et combien on doit louer le Seigneur qu'il a donné cette sagesse à ces hommes et ces femmes pour trouver des moyens pour stopper cette épidémie. Mais on ne sait pas arrêter la mort. C'est pourquoi Paul exprime l'urgence qu'il faut racheter le temps. Racheter le temps. Nous sommes pour l'instant à un temps où tout va mal. On allume la télévision et on voit toutes ces horreurs. Tout va mal, mes frères et sœurs. Et c'est l'heure de nous réveiller. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui dit à l'église de Rome, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller. Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dieu a établi dans ta vie, dans ma vie, une durée qui est fixée par lui. Il sait des jours. Et nous voyons dans l'Évangile que Jean-Baptiste, son ministère était très, très court. Quelques mois. Et après, il est mort, Jean-Baptiste. Mais il a racheté le temps. Il a racheté le temps. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Cette occasion d'annoncer la vérité. Ça lui a coûté la mort, mais il a annoncé la vérité. Racheter le temps, c'est que Dieu va te donner durant ta vie une occasion, deux occasions, trois occasions durant ta vie d'annoncer le mystère de l'Évangile. La vie est très courte et chaque jour, il y a des gens qui meurent sans Christ. C'est pourquoi Paul nous encourage à passer du temps dans la prière, afin que nous ayons de la sagesse envers ceux du dehors et de racheter le temps. C'est urgent. Il y a des occasions d'annoncer la vérité. Que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Alors Paul va terminer ces quelques paroles en disant que ces paroles doivent être accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. De grâce et de sel. Je ne sais pas si ça vous arrive certainement de manger un bon paquet de frites. Qui n'aime pas ça? Et souvent, on met de la sauce. C'est vrai que ce n'est pas bon pour la santé. Pour ceux qui font régime, ils ne mettent pas de sauce. Mais ce n'est pas vraiment un paquet de frites. On a besoin de la sauce. Et également, je sais que ce n'est pas bon, le sel, mais on met un peu de sel. Ça, c'est un vrai paquet de frites. Je me souviens quand j'étais plus jeune, mais vraiment à l'âge de 10 ans, peut-être un peu moins, j'allais chercher un paquet de frites à la gare d'Anne-Saint-Pierre. Et en face, il y avait une petite friterie avec un carreau coulissant, une femme habillée en blanc avec son chapeau. Et elle préparait ce paquet de frites. Et je retournais à la maison, il n'y avait plus de frites jusqu'à la maison. Mais tellement que c'était bon, ça c'est un vrai paquet de frites. Ainsi pour les pâtes, on met une sauce tomate ou une sauce blanche ou... Bien sûr, on peut faire avec un peu d'ail, on fait revenir avec de l'huile d'olive, un peu de basilic, un peu de parmesan, combien c'est bon. Mais faites attention, ça m'arrive de préparer aussi, et je mets trop d'ail. Et mes enfants, ils me disent, « Papa, tu as mis beaucoup d'ail. » Comment ils savent? Parce qu'ils vont directement à la toilette. Attention. Mais un vrai paquet. Un vrai plat de pâtes. Il y a aussi du sel. Il y a une sauce. Et Paul, c'est ce qu'il dit. Le vrai croyant doit être accompagné de grâce et de sel. Comment je parle avec mes collègues? Comment je parle avec mes voisins? Comment je parle avec ma famille, mes enfants, ma femme, mon mari? Est-ce qu'elles sont accompagnées de grâce? Qui signifie des paroles saintes, justes, utiles, vraies, gentilles, réfléchies. L'apôtre Paul dira à l'église d'Éphèse qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est pourquoi je dois encore passer du temps dans la prière, accompagné de grâce. Et là, je dois confesser devant vous combien de fois ça m'arrive qu'elles ne sont pas accompagnées de grâce, mais plutôt de règles. Tu dois faire ci, tu dois faire comme ça, tu dois être comme ça, et comme ci, comme ça. Elles ne sont plus accompagnées de grâce, mais de règles. Jésus a parlé en tout temps de grâce. Et cette grâce te porte à obéir le Seigneur. Mais pas seulement de grâce, mais aussi assaisonné de sel. Il paraît que le sel peut piquer quand on frotte sur une blessure. Et le vrai croyant doit parler également du pardon. C'est vrai que ça fait mal d'entendre le pardon, mais combien c'est vrai. Le croyant est celui qui purifie. Parler de paix, de pardon aux uns aux autres. Ça pique, c'est vrai. Mais le sel ajoute également une saveur, du goût. Nous voyons certains vendeurs, quand ils parlent et quand ils ont fini de parler, il y a une chose qu'on a envie, c'est d'acheter directement ce qu'ils vendent. Parce que c'est accompagné de sel. Il y a un goût. Je me souviens, et peut-être je l'ai déjà dit, mais il est bon de nous le rappeler. Quand je me suis converti, je suis parti une semaine en Allemagne pour un séminaire avec Philippot et toute une équipe. Et là, on a appris certaines choses. Et puis, on a dû partir à Namur, loger à Namur pendant une semaine et faire ce qu'on a appris. Et voilà, je suis sur la place en train de parler avec deux personnes. Ils étaient attentifs à ce que je disais. Mais à un moment donné, ils m'ont dit « On ne croit pas en Dieu. » Ça fait mal au cœur d'entendre cela. On ne croit pas en Dieu. Mais ils m'ont dit une parole qui m'a beaucoup touché. « On voit en vous que vous dites la vérité. » accompagné de sel qui donne du goût. Le reste, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui fait le reste. Je ne pouvais pas les convertir. Impossible. Mais je peux donner ce petit goût. Le Seigneur, il fait le reste. C'est moi qui convertis les cœurs. Et Paul termine la fin de ce verset. Afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Ça, c'est dire la bonne chose au bon moment. J'ai appris il n'y a pas si longtemps, dans un webinaire, un frère et une sœur qui expliquaient comment répondre aux questions des uns et des autres. Et nous ont dit ne jamais oublier que derrière la question, il y a une personne. Derrière la question, il y a une personne. Et une personne que Dieu aime. Fais attention quand tu réponds. Parce que cette personne, Dieu l'aime. Alors, ils nous ont appris à retenir 1 Pierre 3, chapitre 3, versets 15 à 16, qu'on peut lire à la maison. Mais il est dit de répondre avec douceur et crainte. C'est de cheminer avec toutes ces personnes qui sont dehors. Avec douceur, avec crainte, avec sagesse, de racheter ce temps. Voilà l'application. Une vie de prière, c'est une vie où tout le monde te voit. Afin que tu ailles, chacun de nous, cette sagesse avec ceux du dehors, et cette sagesse va te rappeler qu'il faut racheter le temps. On a une durée de vie sur cette terre que Dieu a mis lui-même avec des occasions. Et ces occasions doivent être accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, pour répondre à chacun la vérité de l'Évangile. Notre vie est consacrée au Seigneur et on doit l'utiliser tout à sa gloire. Que le Seigneur nous aide durant cette semaine. Amen.